Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessible.
Le prof Patrick.
Eh oui, on retrouve tout de suite le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, je laissais un indice sur ce dont on allait parler aujourd'hui.
Soviet suprême, bien sûr. Oui, on va parler de la Russie, Mathieu, bien vu. Est-ce que tu as entendu, Mathieu, ce petit refrain persistant dans les médias concernant les sanctions économiques prises contre la Russie? Un refrain alimenté la plupart du temps par des représentants politiques de l'extrême droite, française notamment, ou leurs sympathisants. Les sanctions ont échoué, elles pénalisent plus la France et l'Union européenne que la Russie, il faut donc les supprimer.
Ouais.
Fermons les guillemets. C'est marrant, hein, Mathieu, ce réflexe un peu pavlovien de l'extrême droite qui consiste à toujours prendre le parti de l'envahisseur. Hein. Au moins, on peut dire qu'on n'est pas surpris en même temps avec eux.
Il y a une constante, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Pour autant, avec le prof Patrick, tu le sais, Mathieu, il n'y a pas de question taboue. Donc, on va se poser la question, est-ce que ces sanctions sont efficaces ou pas?
Ouais.
Voilà. Très bien. Alors mes sources, je me suis basé sur deux économistes. Un jeune économiste qui a un blog qui s'appelle l'économiste sceptique, qui fait des newsletters hebdomadaires et qui est très intéressant. Et un économiste assez réputé, spécialiste de la Russie, qui est Jacques Sapir. L'économiste sceptique est plutôt... a plutôt un jugement global pour les sanctions. Jacques Sapir a plutôt un jugement global critique.
D'accord.
En quelque sorte. On va commencer par le commencement. Déjà, de quelles sanctions parle-t-on? Je vais faire un petit résumé des sanctions. Hein, je vous fais grâce des aspects techniques. Première sanction, premier niveau de sanction, interdiction pour la plupart des banques russes de faire des transactions en dollars. Donc, de permettre aux entreprises russes de faire du commerce, faire facilement du commerce avec le reste du monde. Pourquoi? Parce que le dollar, c'est la monnaie internationale pour les paiements internationaux. Deuxième niveau de sanction, interdiction pour toute entreprise, quelle que soit sa nationalité, d'aller exporter en Russie un certain nombre de produits de haute technologie.
D'accord.
Notamment les fameux semi-conducteurs. La Russie, ne sachant pas fabriquer ses produits, elle est complètement dépendante de l'étranger à ce niveau.
Okay.
Troisième niveau de sanction, les actifs financiers de la Banque centrale russe qui étaient situés hors Russie ont été gelés. Ce qui impacte forcément la capacité d'action de la Banque centrale russe. Alors, quelles ont été les conséquences sur les 6 mois écoulés depuis l'annonce et la mise en place de ces sanctions? Dans un tout premier temps, presque jour pour jour, hein, à un jour près, le cours de la monnaie russe, le rouble, s'est effondré. Ce qui a rendu les importations évidemment beaucoup plus coûteuses. Mais la Russie a très rapidement réagi. Elle a, dans les semaines qui ont suivi les sanctions, obligé les acheteurs de gaz et de pétrole russes à payer en rouble, de façon à éviter le problème de la monnaie du dollar. Mmh. Ce qui a eu pour effet, en fait, de stabiliser la chute du rouble d'abord et ensuite de faire remonter le cours du rouble.
D'accord.
Bon, il faut savoir qu'à partir du moment où les Russes ne peuvent plus commercer à l'étranger, ben, ils ont plus beaucoup moins l'occasion d'aller vendre du rouble sur le marché des devises, donc ça, la baisse elle a cessé. Et cette obligation de payer en rouble a fait remonter le cours du rouble. Donc une première contre-attaque russe qui était assez maligne. La Russie a commencé, et la deuxième décision encore plus forte, à fermer le robinet du gaz aux Européens, on le sait, du gaz et du pétrole. On aurait pu penser que la Russie allait souffrir de cette perte de revenus, et bien apparemment, et j'insiste sur le « apparemment », ça ne semble pas avoir été le cas, puisque d'autres pays que les pays de l'Union Européenne se sont bousculés au guichet russe pour acheter du gaz russe. Ceci dans un contexte de prix qui était très élevé. Hein. Déjà, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, les prix d'énergie étaient très élevés. Avec le déclenchement de la guerre et tous ces événements, les prix du gaz ont doublé. Voilà, tout simplement. Donc ça a permis à la Russie d'engranger des revenus substantiels. 158 milliards d'euros de revenus d'exportation sur les 6 premiers mois de 2022. Et des recettes fiscales issues de la vente de gaz et pétrole russe de 43 milliards sur les 6 premiers mois pour la Russie. Alors, ce n'est pas 43 milliards de plus que l'année précédente, hein, comme l'affirmait Marine Le Pen, grande admiratrice de Poutine, mais fâchée souvent avec les chiffres. Hein, non, c'est 43 milliards tout court. Alors, à partir de l'été, ça se calme. À partir de juillet et août, les chiffres de vente sont en baisse. Pourquoi? Parce que l'économie, elle est en ralentissement. Et quand l'économie se ralentit, eh bien, la demande se ralentit, ce qui fait baisser les prix. De plus, les ventes hors Union européenne de pétrole et de gaz ne compensent pas la baisse des livraisons à l'Union européenne. Ben pourquoi? On achemine du gaz en construisant des pipelines. Hein. Le gaz, ce n'est pas livré en claquant des doigts. Et les pipelines, ben, quand ils n'existent pas, il faut les construire. Donc tout ça, ça prend du temps. Ouais. C'est pour cette raison que les volumes journaliers de gaz exportés dans le monde entier ont été divisés par deux depuis le début de l'année. et que les revenus des compagnies gazières russes ont été diminués de moitié.
D'accord.
Depuis le début de l'année. Donc voilà pour les, entre guillemets, performances russes face aux sanctions. Bon, c'est des performances quand même qui ne sont pas négligées et qui font dire à leurs supporters français et européens côté extrême droite que les sanctions ne sont pas efficaces. Ouais. Mais il faut aller un petit peu au-delà de ça et il faut comprendre, et c'est sans doute pas très réjouissant, qu'on est dans un bras de fer qui va durer. On n'est qu'au début d'un bras de fer qui va durer. Et donc les effets négatifs côté russe qui commencent à se faire sentir ne vont que s'aggraver. En quelque sorte. Déjà, la cessation des ventes de gaz aux Européens, c'est un one-shot, hein, d'accord ? C'est un coup stratégique majeur hein, de Poutine, c'est clair. Mais c'est un one-shot, parce qu'une fois que c'est fait, et il faut qu'ils en assument les conséquences, qui, elles, vont peser de plus en plus côté russe. Ils vont devoir trouver d'autres clients. Ouais. Alors, on a dit, hein, des pays se bousculent au portillon pour remplacer les pays européens. Mais les conditions ne vont pas être les mêmes pour les Russes. Les pays qui viennent remplacer les pays européens, eh bien, ils sont mieux placés dans les négociations. Et donc, les Russes vont devoir faire des concessions côté prix face à ces nouveaux clients qui, eux, sont en position de force face aux Russes. Parce que les Russes ont besoin de remplacer leurs clients européens perdus. Sachant que côté volume, les Russes, de toute façon, ne pourront pas compenser à 100% les baisses dues aux pertes des clients européens. Bon, quelque part, le plus important, il n'est pas là. Le plus important, il est dans la dépendance réelle de l'économie russe à la technologie occidentale. Ça, on n'en parle pas encore, mais les embargos sur la vente des produits de haute technologie aux Russes vont de plus en plus gravement perturber leur économie, et notamment perturber leurs secteurs les plus puissants, hein, l'extraction énergétique et minière, et l'exploitation minière et énergétique, et le secteur militaire. Continuer à extraire du pétrole et du gaz, construire des gazoducs pour approvisionner les nouveaux clients, fabriquer des armes, tout ça, ça demande des technologies que les Russes importent habituellement parce qu'ils n'ont pas les moyens de les fabriquer par eux-mêmes. Résultat, même si la Russie parvenait d'ici 10 ans à construire l'intégralité des projets de gazoducs et de terminaux gaziers qui sont en cours, et déjà rien que ça, c'est pas évident qu'ils y arrivent, du fait des difficultés pour obtenir des pièces de haute technologie, même si elle le faisait, elle pourrait seulement compenser un tiers du volume des capacités de transport qu'elle a vers l'Europe actuellement, enfin qu'elle avait et dont elle ferme le robinet. Donc il va y avoir des difficultés de plus en plus importantes de ce côté-là pour l'économie russe. Concernant l'armée russe, on sait qu'elle est en grande difficulté. Hein. La production russe de chars d'assaut aurait été stoppée à peine un mois après l'invasion, faute de pièces de rechange pour fabriquer les chars de remplacement. L'armée russe aurait également acheté des munitions d'artillerie à la Corée du Nord. Attention, au secours. On sait aussi qu'elle n'arrive pas à produire, mais alors loin de là, les missiles, munitions, fusées, au rythme où elle les détruit sur le champ de bataille ukrainien. Un champ de bataille sur lequel l'armée russe subit d'ailleurs de graves déconvenues. Donc voilà, du côté de l'armée, c'est pas évident pour elle et elle est déjà en difficulté. Et les difficultés, du fait des problèmes pour obtenir des pièces ou les fabriquer, vont s'aggraver. On va finir avec quelques chiffres globaux. Hein. Les autorités russes ont concédé que leur PIB diminuerait de 2,9% en 2022. Mais beaucoup d'experts pensent que leurs chiffres sont depuis 2-3 ans truqués, hein, ou un petit peu embellis. D'accord. Et c'est pour ça que le FMI, de son côté, prévoit pour l'année 2022 une baisse du PIB russe plutôt de 6%, donc le double.
D'accord.
6% de baisse de PIB, c'est un choc économique d'une grande violence. Hein. Faut avoir conscience de ça. Et en plus, sur un pays dont la taille est plutôt réduite en termes de puissance économique, hein, le PIB russe est du même niveau que le PIB espagnol, c'est-à-dire environ 1500 milliards d'euros. Donc c'est pas une économie très, très, très puissante, et ce choc va être très violent. La Russie, en plus, n'est pas épargnée, pas plus que les autres pays européens, par l'inflation, qu'on estime à 13% par an, donc assez forte. Et donc, la grande dépendance de l'économie russe vis-à-vis de son secteur énergétique fait que les difficultés que j'ai un petit peu annoncées de ce secteur-là, eh bien, vont tirer vers le bas encore plus l'économie russe. Conclusion, on peut dire qu'on est dans un bras de fer qui ne fait que commencer. En fait, donc inutile de tirer des conclusions définitives sur un bras de fer qui débute. Il est possible que la Russie n'ait pas d'autre solution pour s'en sortir que de devenir un vassal de la Chine. Parce que la Chine est le seul pays qui est capable de lui fournir des solutions alternatives pour tous les produits technologiques qu'elle ne peut plus trouver en Occident, du fait de l'embargo. Le seul problème, c'est que ça va se faire au prix d'une soumission politique sur laquelle les Chinois ne vont pas transiger.
Ouais.
Et ça, Quand on connaît l'esprit russe, eh bien c'est un remède qui pourrait bien être pire que le mal initial. J'en ai terminé, Mathieu.
Tu parlais de projets sur 10 ans pour la reconstruction des gazoducs.
La construction de nouveaux gazoducs, oui, ouais. Pour aller alimenter des pays qui veulent bien acheter du gaz russe. Mais il faut le convoyer, le gaz russe. Hein, il n'est pas convoyé par terminaux gaziers, etc.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un bras de fer qui est prévu sur au moins 10 ans.
Alors là, les plans, de toute façon, la Russie a des plans structurels sur 5 ans, 10 ans de construction de gazoducs de manière à élargir sa clientèle potentielle. Ça, en même temps, c'est de la saine gestion. Donc, c'était sans doute des terminaux qui, pour la fin, des gazoducs qui, pour la plupart, étaient prévus. Mais ça prend des années et des années. Hein. Ouais. On voit les conflits, tel pays peut bloquer pour X raisons. C'est hyper compliqué de construire des gazoducs. Hein.
D'accord. Bon, situation qui va donc durer.
Perdurer, exactement.
Malheureusement. Merci beaucoup, Franck Patrick. À tout bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.